Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. On cherche le Parti démocrate ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, celui qui représente l'opposition politique aux États-Unis, on pourrait penser qu'il a une opportunité en or face à la contestation grandissante à l'égard des mesures toujours plus radicales prises par le président Donald Trump. Mais non, les démocrates sont étonnamment inaudibles. D'où notre question ce soir. Les démocrates américains sont-ils anesthésiés? Pourquoi ne se manifestent-ils pas davantage? Sont-ils encore sous le choc de leur défaite à l'élection présidentielle? Est-ce qu'ils peuvent guérir? Est-ce qu'ils peuvent se relancer? Jusqu'où? Jusqu'à prendre, peut-être, me dira-t-on, la tête d'une fronde anti-Trump? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à toutes ces questions, nos trois invités en studio, à mes côtés. Mathieu Bonzon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en études nord-américaines à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Face à vous, Clara Sébastiani, bonsoir.
Bonsoir.
Doctorante en sciences politiques américaines à l'Université Paris Cité. Et Marie Assaf, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en sciences politiques à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI.
Merci.
Je vais commencer par ces sondages qui ont été publiés hier et qui concernent, alors ça intéresse les démocrates, la popularité de Donald Trump. Deux sondages qui indiquent une popularité en berne, 41% d'opinion favorable selon un premier sondage, 40% selon un second. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est moins d'un Américain sur deux qui est satisfait de l'action du président américain. C'est 10 points de moins qu'en janvier, lors de son investiture. Mathieu Bonzon, à quel point la situation est grave pour Donald Trump? Où en est l'opinion publique à près de 100 jours de présence Trump?
Alors, la situation n'est pas encore désespérée pour Trump, hein, mais en effet, on peut constater sans doute des choses qu'on pouvait entrevoir au moment déjà de l'élection, c'est-à-dire que Trump a bénéficié en grande partie d'un vote antidémocrate, et pas seulement, ou peut-être même pas principalement, d'un vote pro-Trump. Et aujourd'hui, maintenant qu'on voit sa politique s'appliquer, qu'on voit une série de choses qui n'étaient pas vraiment annoncées clairement au programme, mais qui arrivent très très vite et très fort dans les premiers jours de l'administration de Trump, eh bien, une partie de la base électorale de Trump se réduit et l'opinion publique ne suit pas forcément les choix les plus extrêmes du nouveau président.
Et les démocrates, comment est-ce qu'ils observent la politique menée par Donald Trump?
Alors voilà, il faut quand même bien noter qu'en revanche, du côté démocrate, c'est quand même encore un peu la panique. Vous avez parlé de choc tout à l'heure. Il y a des stratèges démocrates historiques qui appellent les démocrates à simplement faire le mort en attendant des jours meilleurs. Donc voilà, cette relative baisse du soutien à Trump dans l'opinion publique ne signifie pas que les démocrates se sentent confiants dans l'avenir. Et il y a une réelle crise stratégique réellement du côté démocrate aussi. Donc encore une fois, voilà, le vote antidémocrate a été très fort. Et donc le bilan est difficile à tirer et le parti est assez peu centralisé aussi dans son système de construction de son programme politique, donc ça pose des difficultés à surmonter cette crise stratégique.
Clara Sébastiani, vous êtes étonnée, vous qui êtes encore une fois doctorante en sciences politiques américaines, est-ce que, vous observez évidemment de très près le Parti démocrate, est-ce que ça vous étonne aujourd'hui, encore une fois, bientôt 100 jours de présidence Trump, on voit la contestation qui grandit aux États-Unis et ailleurs, il y a eu au début avril des marches à travers le pays de plusieurs millions de personnes, il y a un boycott des produits américains qui s'organise en Europe et ailleurs, et l'opposition politique aux États-Unis, on n'entend pas?
Alors, je ne suis pas vraiment étonnée de l'inertie du Parti démocrate, parce que déjà, ça ne date pas forcément après l'élection. En fait, on avait déjà constaté un manque d'entrain pendant la campagne de 2024, au moins jusqu'à l'annonce du retrait de la candidature de Joe Biden au profit de Kamala Harris. Et d'une part, comme le disait Mathieu, il y a un manque de cohésion en fait, dans l'organisation du parti. Et en fait, moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est vraiment une crise identitaire, en fait, sur ce qui fait l'identité même du Parti démocrate.
Ils savent plus qu'il est défini aujourd'hui.
Tout à fait, en fait. Et c'est une crise qui date pas d'aujourd'hui, hein, qui s'est construite, qui a monté en puissance ces dernières décennies, où on a vraiment une division assez profonde entre l'aile centriste, qu'on peut dater à peu près à l'ère Clinton, et qui avait été la ligne qui avait été poursuivie par la présidence Obama et même par la présidence Biden, et de l'autre côté une aile très très à gauche se revendiquant du socialisme qui est incarnée aujourd'hui par des candidats, enfin des élus comme Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez.
Ce que je veux dire, c'est que qui est vraiment la partie qui est audible en réalité aujourd'hui. C'est un peu les seuls qui mènent la charge contre Trump du côté démocrate.
Bernie Sanders qui.
Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez qui qui peut-être en train de bénéficier d'une passation.
Et Bernie Sanders, on parlera des initiatives, mais qui mène un tour de l'Amérique. Il réunit effectivement des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes à chaque fois. Ce que vous nous dites finalement, Clara Sebastiani, c'est que les démocrates sont trop divisé aujourd'hui pour profiter, entre guillemets, du chaos que Donald Trump peut créer?
En fait, je pense que la raison même qui a causé, une des raisons principales qui a causé leur défaite, est la même raison pour laquelle on ne les entend pas aujourd'hui, en fait. C'est qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qui fait l'identité même de leur parti, sur les valeurs, en fait, que doit porter ce parti maintenant. Et donc, en fait, c'est très difficile de s'organiser quand on est en profond désaccord sur des points aussi centraux du programme. En
mais fait. Ma question finalement elle est un peu basique. Quand on voit que l'opinion publique à l'égard de Donald Trump elle baisse, est-ce qu'on peut pas imaginer que de fait elle va du côté des démocrates, même si effectivement il n'y a pas de clarté sur la ligne politique aujourd'hui? Non, me dit Marie Assaf. Pourquoi alors?
Non, parce qu'il y a une défiance envers le parti démocrate. Comme le soulignait Mathieu, le vote en faveur de Donald Trump était aussi un vote de défiance envers le parti démocrate, qui était le parti sortant, qui était le parti de gouvernement. Et donc, il n'y a pas un report mathématique. Mais ça, c'est en sciences politiques et dans la science électorale, c'est rarement... c'est pas toujours le cas. C'est pas parce qu'il y a de la défiance envers Donald Trump que, fatalement, on va se reporter sur un parti démocrate qui, comme le souligne Clara, est excessivement divisé et à une crise, comme tu l'as dit, et traverse une crise identitaire profonde. Et d'ailleurs, parler de partis démocrates, on devrait le dire au pluriel, en fait. Il y a des partis démocrates au sein du grand parti démocrate, et ces partis ne se parlent plus depuis plusieurs années, et se mettent généralement d'accord à peu près au moment de l'élection présidentielle, un peu comme un repas de famille, si vous voulez. Vous mettez sous le tapis certains sujets pour vous dire il faut aussi qu'on essaye de gagner, et là manifestement ça n'a pas fonctionné.
Donc finalement politiquement c'est américains qui se détendent de Donald Trump, qui ont pu voter lors de la présidentielle de Donald Trump, ils se trouvent dans une sorte de zone grise, on dirait, c'est-à-dire qu'ils sont ni plus vraiment électeur républicain, mais pas démocrate pour autant.
Tout à fait. Moi, je trouve que c'est pas forcément une surprise, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'options politiques qui sont simplement pas sur la table. En fait, si on observe les sujets qui ont été débattus dans la campagne de 2024, et finalement, aucun des deux partis, en tout cas dans sa majorité, ne représente vraiment toute une série de problèmes concrets que rencontrent les gens. Donald Trump fait campagne contre le bilan Biden, mais ensuite se met à faire des coupes dans les budgets sociaux et à détruire des agences fédérales sur lesquelles les Américains pensaient pouvoir compter parce qu'ils n'avaient jamais annoncé qu'il allait les démanteler. De l'autre côté, les démocrates, en fait, ne souhaitent pas vraiment un changement de cap. En tout cas, la majorité du Parti démocrate, les centristes restent largement majoritaires. Et en fait, c'est ça aussi la logique de faire le mort. C'est en fait, on espère simplement que, petit à petit, par défaut, on va bénéficier du retour de balancier sans avoir rien changé au cap politique qu'on avait précédemment et qui a été rejeté par les électeurs en 2024.
Et pourquoi c'est aussi difficile de clarifier la ligne politique des démocrates? Pourquoi ils se déchirent aujourd'hui? Pourquoi ils remettent à plus tard, semble-t-il, un accord sur cette ligne politique pour que ce soit clair?
Je dirais, en tout cas, que je prolongerai ce que disait Clara sur le fait que la crise ne date pas d'hier et qu'en fait, il y a un choix en termes de base électorale qui a été fait de se détourner des classes populaires et de parier sur une fidélité, notamment des minorités ethno-raciales, des femmes et une croissance des classes moyennes. Et en fait, ce pari est, semble-t-il, perdu en termes de calcul électoral, en tout cas. Et il n'y a pas vraiment d'alternative déjà constituée pour les centristes. Donc, ils ne souhaitent pas vraiment remettre en cause ce chemin. Et en même temps, ils voient bien que ça ne les amène pas vraiment là où ils voudraient aller. Et il n'y a pas vraiment de réponse à l'échelle du parti, en tout cas, à ce dilemme.
Clara Sebastiani, qu'est-ce qui a été fait après la défaite de novembre dernier, côté démocrate? Il n'y a pas eu un congrès? Comment est-ce que les leçons de l'échec ont pu être tirées?
Pas vraiment. En fait, ce qu'on a observé, c'est beaucoup ce qu'en anglais on appelle le name blaming, en fait, de dire c'est ta faute à toi, c'est ta faute à toi. Et en fait, il y a eu beaucoup d'accusations, en fait, qui ont été menées de part et d'autre. En sens inverse à chaque fois, donc l'aile centriste accusant la gauche d'avoir profité à Trump en faisant peur à la majorité de l'électorat. À l'inverse, on a eu une déclaration publiée par Bernie Sanders quelques jours après l'élection en disant ce n'est pas du tout étonnant qu'un parti qui a abandonné les classes populaires se retrouve à son tour abandonné. Donc de nouveau, ce qui témoigne en fait du chaos qui règne. Et pour répondre à votre question tout à l'heure sur pourquoi le Parti démocrate ne parvient pas à se mettre d'accord, je pense qu'on est aussi peut-être... Alors, ça peut paraître étonnant, étant donné que Bernie Sanders lui-même est assez vieux, mais on est un...
83 ans.
Oui, voilà. Ouais. On est aussi à un choc un peu générationnel, quelque part, où on a toute une arrière-garde démocrate représentée par des gens comme Nancy Pelosi, comme Joe Biden, comme Chuck Schumer aussi, par exemple, ouais. Qui sont là depuis très très longtemps.
Qui est le chef des démocrates au Sénat.
Oui, le chef de la minorité démocrate au Sénat, qui d'ailleurs n'est pas à l'abri d'une candidature d'AOC contre lui en 2026. Ouais.
Donc, elle a Alexandria Ocasio-Cortez, qui est
fait.
Un petit peu vue à 35 ans, l'élu de New York, comme peut-être l'avenir du Parti démocrate, on en parlera
plus. C'est ça, voilà. Et ouais. Donc, en fait, depuis l'entrée en scène de cette frange gauche du Parti démocrate, il y a eu des affrontements constants entre cet appareil un peu de Parti démocrate et cette frange contestataire qui prend de plus en plus de place.
C'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression qu'elle pèse plus que le qui a dit bien sûr, c'est vous ?
Oui, oui, bien sûr, de plus en plus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait.
Mais alors pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas le dessus et pourquoi est-ce qu'elle ne s'impose pas ? Encore une fois, cette aile gauche, c'est Bernie Sanders. C'est 30 000 personnes, en tout cas des dizaines de milliers de personnes à Los Angeles il y a 10 jours, au cours de sa tournée des États-Unis.
36
000 personnes
à Los Angeles.
36
000
personnes, c'est
ça,
ouais.
Là-dessus, moi, j'aimerais intervenir sur la forme du parti et en revenant aussi sur ce que vous aviez soulevé sur la notion d'un éventuel congrès de bilan, etc. En fait, là, on est en train de parler de réalités qui sont assez étrangères à la forme même des partis aux États-Unis, qui sont plus décentralisés que jamais, dans le sens où ce sont en fait des conglomérats un peu lâches d'élus qui sont en compétition sur leur capacité à récolter des fonds et qui sont extrêmement autonomes dans leur action en réalité. Il n'y a pas de notion d'un parti qui serait constitué par des membres et contrôlé par des gens qui délibéreraient, qui voteraient sur des plateformes de congrès, etc. On est vraiment pas du tout dans ces logiques-là. Donc, il n'y a pas d'espace en réalité pour, pour que les électeurs s'emparent en réalité du bilan et fassent pression pour un changement interne. Et pour la même raison, c'est difficile.
Est-ce qu'il y a un espace pour un examen de conscience ?
Il n'y a pas un espace central en réalité. Et je pense que pour le même type de raison, c'est très difficile pour des candidatures un peu dissidentes de vraiment avoir une prise au-delà de mener une campagne, essayer de gagner un siège ici ou là, etc. Mais voilà, vraiment, l'idée qu'il pourrait y avoir un contrôle du parti qui serait pris par une plateforme dissidente vraiment ne correspond pas au fonctionnement des partis aux États-Unis depuis bien longtemps.
Trouver une ligne politique, c'est une chose, mais s'opposer à Donald Trump, je pense qu'ils sont d'accord, les centristes et l'aile gauche des démocrates, là-dessus. Maria Saf, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on n'entend pas davantage Joe Biden ? Pourquoi on n'entend pas davantage Barack Obama ? Pourquoi on n'entend pas davantage Kamala Harris ? Kamala Harris et Barack Obama, on les a vus le 3 avril. Ils n'étaient pas apparus depuis l'investiture de Donald Trump au fin janvier.
Ils sont d'accord et ils ne sont pas d'accord. Et je pense qu'ils ne sont pas d'accord sur comment aussi nommer Donald Trump et ce que fait Donald Trump. Parce que, qu'on soit clair, l'ère politique dans laquelle est entrée et dans laquelle nous sommes entrés là aux États-Unis, c'est une ère d'extrême droite. C'est-à-dire que ce n'est plus du conservatisme tel qu'on pouvait l'entendre avant dans le parti républicain classique. Et là, il y a bagarre sur comment on nomme ça. Et l'aile gauche qu'a décrit Clara, pour elle, le combat, il est clair, il est face à une montée du fascisme aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a des alliances, et je pense que Mathieu pourra revenir aussi là-dessus, avec des courants antifascistes qu'on retrouve notamment dans la marche là, qui a eu lieu à Los Angeles. Et or, l'aile centriste, qui est plus incarnée par Barack Obama, Kamala Harris, feu le couple Clinton, etc., elle ne considère pas et ne veut pas nommer, ne veut pas qu'on dise que là, aux États-Unis, on a basculé dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à du fascisme.
Donc même dans l'opposition à Trump, ils sont divisés.
C'est vrai, et puis je voulais souligner que sur ce point du fascisme, avant l'élection, en fait, les démocrates ont conclu leur campagne en disant « Attention, Trump, c'est le fascisme.
Oui, »
Et aujourd'hui, silence. Ça aussi, ça les discrédite. Parce qu'en fait, s'ils étaient sincères à ce moment-là dans l'idée que c'était la menace fasciste, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ne donne pas l'impression qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils disaient juste avant l'élection. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils incarnent pour l'électorat interne alternative ? C'est pas clair du tout pour ce genre de raisons.
Ils ne sont pas à la hauteur du combat. En fait. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. Ce qu'essaye d'incarner, c'est aile gauche.
Oui, mais en fait, c'est-à-dire que l'aile gauche, c'est aussi les seuls qui portent un véritable projet de société alternatif, en fait. Puisque, justement, les démocrates, on parlait des raisons de la défaite. Une des grosses raisons, et tu soulignais, Mathieu, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment grand-chose à proposer d'autre que ce qu'ils font depuis 30 ans, en fait. Et à mon sens aussi, une des conclusions à tirer de cette élection, c'est que ça ne séduit pas l'électorat américain. Et donc, il faut proposer quelque chose. Et l'aile gauche est la seule à proposer un véritable projet de société construit qui est susceptible de défaire l'abstention, ouais. en fait, parce que c'est ça le véritable ennemi. Vous parlez tout à l'heure, on parlait de mathématiques et de logique comptable, l'un perd des voix, donc l'autre en gagne. En fait, ce qui gagne, c'est l'abstention, en fait. C'est aussi beaucoup. C'est ce qui s'est beaucoup produit ces dernières années. Après, pour revenir sur la politique du parti et justement ces oppositions entre aile gauche et aile centriste, il y a quelques jours, il y a eu une annonce assez inédite de David Hogg, qui est le vice-chair du Comité national démocrate, qui a annoncé que, pour la première fois, le comité va aussi financer des campagnes de candidats adversaires dans des circonscriptions démocrates, s'ils estiment que, je cite, « les élus se sont endormis au volant ». Et donc, vraiment, c'est la première annonce du comité central du Parti démocrate qui, avant, était vraiment attaché à la protection des sortants.
Ça se traduit comment ? Ça veut dire quoi, qu'ils sont endormis au volant ?
Qu'ils ne sont pas assez agressifs face à Trump, justement.
D'accord.
Justement.
Donc, il y a une mobilisation qui est peut-être naissante.
Qui va peut-être poindre. Et donc là, on parle de quelqu'un, c'est un jeune, hein, il a 25 ans, il a été nouvellement élu au comité central du Parti démocrate. Donc voilà, c'est là aussi, on voit un petit peu l'émergence de...
D'initiative.
Quelque chose de différent, oui.
Mais comme il y a eu aussi ce cabinet de guerre destiné à réagir aux mensonges de l'administration Trump, la mise en place a été annoncée au début du mois par les démocrates.
Il y a des think tanks qui gravitent autour du parti, il y a des organes, ils conduisent aussi ce qu'on appelle des rapports d'autopsie, c'est-à-dire que le Parti démocrate a bien réalisé, soyons clairs, hein, qu'ils avaient perdu, qu'ils étaient aussi en partie responsables du retour de Trump au pouvoir, mais il y a une partie du Parti démocrate aussi qui n'est pas totalement d'accord pour reconnaître les raisons aussi derrière. Et il y a une autre partie qui dit il faut qu'on le fasse, il faut qu'on avance. Et ça, le Parti républicain, quand ils avaient perdu aussi face à Barack Obama, l'avait fait aussi.
Ouais.
Ils avaient également conduit ce travail de réflexion post-mortem en disant qu'est-ce qui se passe et comment on va faire pour relancer la machine, finalement.
Est-ce que leur voix est réduite parce que leur pouvoir de nuisance l'est également ? Encore une fois, évidemment, ils ne sont pas au pouvoir, et encore moins dans le sens où ils sont minoritaires dans les deux chambres.
Oui, après, il s'agit aussi de l'utiliser, le pouvoir de nuisance. Quand on en a, par exemple, on a certains démocrates qui, notamment Chuck Schumer, par exemple, qui a voté la ligne budgétaire de Donald Trump du premier coup, en fait.
Il n'a clairement pas voulu utiliser le même type d'armes que les républicains utilisent quand eux sont en minorité dans les institutions. Donc, si on en reste au champ institutionnel, en plus, on peut parler de ce qui se passe au-delà, mais rien qu'à ce niveau-là, clairement, les démocrates historiques
ne sont pas du tout sur la même ligne
d'agressivité. Ne vont pas au bout de ce qu'ils pourraient faire dans les institutions.
RFI, le débat du jour.
Les démocrates sont-ils anesthésiés, les démocrates américains ? C'est la question qu'on pose ce soir, parce qu'ils sont évidemment très peu audibles alors que la contestation grandit aux États-Unis, ailleurs dans le monde aussi, à l'égard de la politique menée par le président américain Donald Trump. Mes trois invités sont Mathieu Bonzon, maître de conférence en études nord-américaines à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Clara Sebastiani, doctorante en sciences politiques américaines à l'université Paris Cité, et Marie Assaf, docteur en sciences politiques à l'école des hautes études en sciences sociales. On a, dans la première partie du débat, finalement, fait le constat d'un parti démocrate qui est profondément divisé, vous l'avez dit, entre l'aile centriste et l'aile à gauche, qui empêche finalement ces démocrates de s'exprimer et de s'opposer, parce qu'ils ne sont pas d'accord non plus sur l'opposition à avoir à Donald Trump. Mais maintenant, je voudrais qu'on dise ce que peut faire le Parti démocrate. Qu'est-ce qui peut se passer pour le Parti démocrate pour qu'il puisse avoir un vrai pouvoir de nuisance, se rejoindre cette fronde anti-Donald Trump, peut-être en prendre la tête? Comment est-ce que le Parti démocrate aujourd'hui peut se relancer, Clara Sebastiani?
Alors, la première chose à faire, et c'est d'ailleurs ce qu'ont entrepris Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez dans leur tour des États-Unis contre ce qu'ils appellent l'oligarchie, c'est d'aller à la rencontre des électeurs et des électrices, notamment, en fait, dans des États ou des régions qui ont voté massivement pro-Trump. Pour justement déjà se montrer, en fait. Montrer qu'ils sont là, montrer qu'ils sont à l'écoute. Au cours de ces tours-là, ils ont aussi recruté ce qu'on appelle des organizers, donc des gens qui vont rester sur le terrain et qui vont avoir pour but de travailler à cette mobilisation de l'électorat. Et il y a aussi être à l'écoute, en fait, de l'électorat en question. C'est quelque chose que leurs équipes, à eux, savent très bien faire. Que le Parti démocrate a un peu plus du mal à faire, mais c'est quelque chose qui demande en fait beaucoup de militants. Et donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est vraiment trouver de l'union autour d'un projet de société en fait, à défendre.
Le militantisme ne suffit pas s'il reste divisé.
Mais alors, je dirais que déjà, il y a une première chose, c'est que, en fait, quand tu disais, Clara, ils sont allés dans les endroits qui ont voté massivement Trump, je dirais massivement et moins massivement, parce qu'ils ont aussi identifié des circonscriptions qui, en fait, se sont perdues par les démocrates à peu de choses près, et donc, en se disant, vu que ces politiques de Trump, une fois qu'elles annoncent leur vrai visage, vont déplaire à une partie de la base qui a voté Trump en 2024, ces circonscriptions peuvent rebasculer. Donc, en fait, la gauche fait le travail que devrait faire, finalement, le Parti démocrate classique. Dans ces circonscriptions pour essayer de les regagner au plus vite. Et l'autre élément dont je voulais parler, c'est l'élément local, parce qu'il y a des zones dans lesquelles la gauche, pour le coup, là, je parle vraiment plus de la gauche que des démocrates en général, mais peut essayer d'obtenir des avancées. Je travaille notamment sur l'État de New York et la ville de New York, et c'est un de ces espaces. Et il y a une campagne électorale municipale qui est en cours. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire que la gauche a une chance de la remporter, mais en réalité, il y a un candidat de gauche qui est très bien placé. Il y a la possibilité pour la gauche de faire un vrai score dans cette campagne et de donner le ton pour une contre-offensive aussi au nom d'une politique un peu plus claire que celle qu'un démocrate lambda pourrait réellement défendre.
Mais il y a une élection qui s'est jouée récemment et qui peut donner de l'espoir aux démocrates dans le Wisconsin. Candidat des démocrates qui l'a emporté face au candidat républicain alors que Elon Musk avait mis des millions de dollars dans cette élection. Marie Assaf, est-ce que ça c'est source d'espoir pour les démocrates se relancer?
C'est source d'espoir et puis comme le soulignaient Clara et Mathieu, c'est le signe qu'il faut réinvestir des espaces politiques perdus. La démocratie américaine, sur le papier, c'est censé être la démocratie la plus vive du monde. Les Américains votent tout le temps, ils votent pour tout. Or, les conservateurs, eux, ont réussi à investir beaucoup de ces petits espaces qui ont été longtemps négligés, comme les conseils d'école. Parce que c'est comme ça, par exemple, que sont arrivées l'interdiction de certains manuels scolaires. Parce que ce sont des mères de familles conservatrices qui ont fait du lobbying pour aller interdire ça. Ça, c'était des espaces un peu abandonnés par le parti. C'était des élections, comme tu disais, où on s'endormait un petit peu au volant. Or là, il y a une volonté en retournant... aux racines et au militantisme de base, et comme le soulignaient Clara et Mathieu, en réenclenchant un rêve américain plus axé sur du social, ce que veulent aussi les Américains, et ça les sondages le montrent également, là il y a moyen effectivement d'avoir un peu plus d'espoir et de dire c'est toutes ces élections qui vont arriver, peut-être qu'on peut essayer de les gagner.
Vous êtes d'accord avec finalement ce que disait Clara Sébastiani, c'est la base militante qui mobilisera les têtes du Parti démocrate?
Je pense que c'est un effort qui doit se faire dans les deux sens. On ne peut pas se passer, et comme le disait Mathieu en début d'émission, le Parti démocrate, c'est une énorme machine. Les institutions américaines sont d'énormes machines. Le Parti démocrate fait face à des obstacles institutionnels profonds qu'il a participé également à mettre en place au fil des années et au fil des décennies. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ouais. Et là, pour reprendre ce que disait Clara, il y a un choc de génération. Il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de cette ancienne garde qui n'incarne peut-être plus l'attente sociale d'une partie du pays. Est-ce qu'on les pousse gentiment vers la sortie et on propose...
En plus, ils ont encore une voix qui est entendue. On parle d'anciens présidents.
Ils ont encore une voix qui est entendue, mais c'est aussi des voix qui viennent étouffer d'autres voix. C'est-à-dire que, par exemple, le couple Clinton et Barack Obama et le duo Barack Obama-Joe Biden ont occupé une place énorme. Ouais. Dans l'imaginaire du parti et dans l'imaginaire politique du pays. Et peut-être que ça a fonctionné un temps, mais là, manifestement, ça ne fonctionne plus.
Clara Sébastiani, à un moment, le problème, c'est qu'il va falloir désigner une personne à la tête du Parti démocrate qui mène, en vue de la prochaine présidentielle, on va parler des midterms aussi, les élections de mi-mandat.
Tout à fait.
Mais ça veut dire s'entendre sur une ligne.
Ça veut dire s'entendre sur une ligne ou ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra que le débat ait lieu et ait vraiment lieu. Et la question, c'est comment est-ce qu'on règle le débat, en fait? Est-ce qu'on règle le débat par une convention du parti ou finalement, c'est de nouveau le même type de recette pour désigner petit à petit qui semble émerger comme candidat, ou est-ce que ça va se jouer plutôt au niveau vraiment à la fois local et au niveau des électeurs et des électrices? C'est beaucoup trop tôt pour avoir des prédictions sur les prochaines présidentielles. Néanmoins...
La prochaine présidentielle est loin, mais avant, il y aura les élections de mi-mandat. Et surtout, est-ce qu'il ne faut pas qu'une personne incarne le Parti démocrate? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un nom qui émerge rapidement pour eux?
Encore une fois, ce n'est pas du tout pour faire une prédiction, mais un chiffre qui est quand même assez intéressant à noter, c'est qu'Alexandria Ocasio-Cortez, là, dans le premier trimestre de 2025, a levé 9,6 millions de dollars. Elle a exploser son propre record, et c'est pour une année où il n'y a pas d'échéance électorale. Donc,
Les sondages vont dans le même sens.
Et les sondages vont dans le même sens. Donc, ça peut être un indicateur sur le type de figure politique que les gens souhaitent voir émerger. D'autant plus que, on n'en a pas parlé, mais la question de l'argent en politique, qui est de plus en plus une préoccupation pour les gens, est une cause de désintéressement, en fait, de désintérêt des électeurs pour la politique. C'est des campagnes qui sont financées par des petites contributions, majoritairement, qui sont... c'est des gens qui ne font pas appel au lobby, etc. Donc ça, c'est un modèle de société qui descend du projet jusque à la campagne elle-même, en fait. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est assez novateur et qui est intéressant à garder en tête pour les prochaines élections, les midterms, mais ensuite pour la suite.
Vous les voyez comment, les midterms, justement, Mathieu Bonzon, avec cette personnalité donc, de 35 ans, Alexandra Ocasio-Cortez, qui émerge? Est-ce qu'elle peut être cette figure qui mène le Parti démocrate et qui mène peut-être la fronde, l'opposition à Donald Trump, que pour l'instant, seule l'opinion publique, une partie de l'opinion publique américaine et étrangère mène?
Alors, je dirais deux choses là-dessus. La première, c'est que, il y a effectivement cette idée que des figures comme Ocasio-Cortez pourraient être très populaires pour de multiples raisons, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs institutionnels dans la constitution, dans la forme des partis, etc., qui encouragent l'inertie, alors même qu'il y a une crise en termes de projet politique, en réalité, de part et d'autre, à mon avis, et que du côté de Trump, ça va se voir de plus en plus. Donc en fait, c'est très contradictoire comme situation. Il y a des choses qui pourraient émerger en termes de projet politique, mais les institutions ne vont pas favoriser leur émergence. Et donc, il y a une possibilité d'une sorte de période de crise qui se prolonge, dans laquelle ça tire un peu dans tous les sens. Voilà, donc ça rend déjà difficile de prédire réellement le profil des élections. Et l'autre élément, c'est quand même qu'on est encore loin en termes de chronologie électorale de cette campagne-là. Ouais. Et même en termes de chronologie des luttes sociales, parce que je pense que c'est aussi une dimension importante qui pourrait peser dans cette situation d'indétermination. Mais il faut rappeler que dans le cas de la chronologie du premier mandat de Barack Obama, par exemple, si on était en fin avril comme on est maintenant, le Tea Party était encore quelque chose qui ne semblait pas vraiment avoir d'existence. Il avait déjà été créé, mais enfin, c'était négligeable. Quelques mois plus tard, on se rendait compte qu'on était face à un mouvement qui pouvait peser et qui a amené beaucoup des développements qu'on a vu ensuite se produire du côté républicain jusqu'à Trump aujourd'hui. Donc voilà, en résumé, on est très tôt, il peut se passer encore beaucoup de choses.
Marie Assaf, vous croyez en la capacité des démocrates à se relancer rapidement ?
Rapidement, je ne sais pas. Et surtout, comme le soulignait Mathieu, même pour la question des élections, des midterms, etc., je m'interroge sur leur capacité à faire face au découpage extrêmement complexe des élections américaines. Et quand on suit les élections, quand on vous montre ces grandes cartes, par exemple, sur CNN, avec ces micro-comtés, etc., qui se superposent, en fait, il y a des gens dont le métier, c'est d'analyser la démographie et les caractéristiques sociologiques de ce micro-endroit pour savoir quel bon candidat placer, etc. Et c'est à nouveau, les démocrates ont participé à ce découpage-là qui joue en partie aujourd'hui en leur défaveur. Donc comment réussir à articuler ça dans ce contexte extrêmement complexe, comme l'a souligné Mathieu, et de division, comme l'a souligné également Clara, c'est un beau défi.
Un beau défi, difficile à prévoir, en tout cas, pour répondre à la question. Les démocrates, oui, pour le moment, sont anesthésiés, car d'abord divisés, mais peuvent se relancer, notamment grâce à leur base militante. Et évidemment, pour s'entendre sur une ligne directrice et une personnalité qui émergerait et qui mènerait le combat anti-Trump du Parti démocrate. Merci beaucoup à vous trois, Mathieu Bonzon, Clara Sébastiani et Marie Assaf. Merci à Arnold Assowa, qui était à la préparation de ce débat, et Olivier Roux à sa réalisation.
RFI.
Allez, coup d'œil à la pendule. Dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec Christophe Paget. Et puis 30 minutes plus tard, Afrique Soir, la première édition de ce jeudi, qui sera présentée par Sylvie Berruet. Sylvie, quel programme ce soir dans 30 minutes ?
Alors, nous reviendrons sur l'annonce hier soir de Kinshasa et des groupes armés AFC M23 à propos du conflit dans l'est de la RDC. Des réactions, le Qatar, le Rwanda et la Belgique saluent une avancée après la déclaration donc de Kinshasa et des rebelles de l'AFC M23 affirmant vouloir une trêve. À Madagascar, Emmanuel Macron annonce la création d'une commission franco-malgache, donc mixte, d'historiens sur la répression de l'insurrection en 1947. Dans le même temps, il appelle à intégrer Mayotte dans la commission de l'océan Indien, mais les Comores s'y opposent et revendiquent la souveraineté de cette île, de leur archipel. Et puis musique avec la sélection toujours très attendue de DJ Facemaker, alias Hervé Mandina, pour donc la sélection musicale de la semaine.
On sera à l'écoute, c'est dans 30 minutes. Merci Sylvie. Bougez pas, on revient.